Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez 100% ActuCac, nouveau podcast proposé par la CRCC de Normandie. Pour vous donner des clés de compréhension, vous apporter de nouveaux regards sur des sujets juridiques, économiques, d'actualité, nous allons à la rencontre de personnalités stimulantes, éclairantes et passionnantes. L'ambition de ce podcast est de vous apporter de nouvelles connaissances pour enrichir votre activité professionnelle, mais aussi votre culture personnelle. Pour inaugurer ce nouveau format, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Pagnocco, doyen de la faculté de droit à l'université Caen Normandie et responsable du DJCE. Lorsqu'il lui reste un peu de temps libre, il s'adonne avec talent au blues. Jean-Christophe aborde aujourd'hui le sujet de nouvelles prorogations des mesures dérogatoires de réunion des AG et organes dirigeants.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelques minutes de podcast pour discuter ensemble de la nouvelle prorogation des mesures dérogatoires de réunion et de délibération des assemblées générales et des organes dirigeants. Le contexte sanitaire, la restriction de la liberté de circuler, de la liberté de se réunir, a imposé aux législateurs de prendre des mesures dérogatoires afin que les groupements qui ont besoin, ont recours à la décision collective pour pouvoir fonctionner normalement, eh bien pour que ces groupements puissent continuer à exister pendant une crise sanitaire qui n'en finit pas de s'allonger. Alors, ces groupements qui ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du législateur sont les groupements qui connaissent des règles de décision collective qui sont encadrées par le dit législateur. Mais finalement, c'est une catégorie extrêmement large qui a été choisie. Le législateur a choisi de s'intéresser aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale, de droit privé, et notamment, sans que cette liste soit limitative, aux sociétés civiles et commerciales, cotées ou non cotées, aux masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, aux GIE et aux GEIE, aux fonds de dotation, aux associations et aux fondations. Le législateur a pris des mesures dérogatoires aux règles normales de réunion à travers une série de textes qui n'en finit pas de s'allonger, à un tel point qu'il est particulièrement compliqué pour le professionnel de se repérer dans cette jungle textuelle. Alors, jungle textuelle, c'est peut-être un petit peu exagéré, il n'empêche quand même que lorsque l'on contemple l'historicité des textes, il est nécessaire de tenir compte d'abord de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a porté adaptation des règles de réunion et de délibération, de son décret d'application du 10 avril 2020 qui a précisé certaines de ces règles, du décret du 29 juillet 2020 qui a prolongé l'application de ces dispositions jusqu'au 30 novembre 2020, de l'ordonnance du 2 décembre 2020 qui a une nouvelle fois prorogé ces règles de réunion et qui les a adaptées, du décret du 18 décembre 2020 qui a également prorogé, adapté et appliqué les règles issues de l'ordonnance. Ces mesures étaient initialement applicables jusqu'au 1er avril avec une prorogation possible. Cette prorogation possible a été décidée par le dernier texte en date, le décret du 9 mars 2021, qui a décidé la prorogation maximale de ces mesures jusqu'au 31 juillet 2021, ce qui était finalement la date butoir qui était donnée par, par l'ordonnance. Donc, on est face à des mesures temporaires qui ont tendance à durer et qui laisseront certainement leur marque à l'avenir. Et une fois les soubresauts de la crise sanitaire dissipés, eh bien, qui laisseront leur marque sur la façon de faire vivre la collectivité, de prendre des décisions collectives dans des groupements. Alors concrètement, à la suite de ces mesures, qu'est-ce que l'on peut faire? Quelles sont les souplesses qui sont données? Quelles sont les modifications des règles exigeantes du droit positif qui sont réalisées? Sont d'abord considérablement assouplies les règles de convocation, de fonctionnement et tout spécialement de réunion des organes collégiaux concernés. Alors on parle des assemblées de membres du groupement, des conseils d'administration, des conseils de surveillance, des directoires. Sont également autorisés temporairement le recours à des modes de décision collective un peu plus moderne, plus original. Ces modes de décision, c'est la visioconférence, la conférence téléphonique, la conférence audiovisuelle, la consultation écrite, et même, grande nouveauté, la possibilité de tenir des assemblées sans présence physique, ni visioconférence, des membres des groupements. Alors, dans un premier temps, nous allons étudier les règles qui ont assoupli la vie des assemblées générales, et puis dans un deuxième temps, les règles qui ont assoupli la vie des organes collectifs. Comment est-ce qu'on assouplit la vie des assemblées générales? D'abord, on a assoupli les règles de convocation et on a assoupli ensuite les règles de délibération. Les règles de convocation, d'abord, Il est possible, à présent, pour tous les groupements, pendant toute la durée d'application de ces mesures temporaires, eh bien, que les convocations soient adressées par tout moyen, par mail, par tous les moyens possibles et envisageables. En fait, c'est la fin du règne du papier, fin de la prééminence de la voie postale, y compris dans les sociétés cotées. Donc, il est tout à fait possible de convoquer sans restriction, quelle que soit la forme du groupement, par mail. Ces modes d'échange par mail concernent non seulement la convocation, mais également le droit à l'information, c'est-à-dire que les associés qui exerceraient leur droit à l'information peuvent l'exercer en communiquant une adresse mail et peuvent obtenir de la part de la société l'envoi des informations par mail. C'est encore une fois un assouplissement qui est un assouplissement assez révolutionnaire dans certaines formes de groupement. On avait d'abord assoupli les règles de convocation, on a ensuite assoupli les modes de délibération. La grande nouveauté, celle qui a fait le plus parler d'elle, finalement, c'est la possibilité de tenir des assemblées sans présence physique ou à distance des membres, ce que l'on appelle l'Assemblée générale à huis clos. Cette Assemblée générale à huis clos est secondée de mesures qui permettent, qui facilitent l'application de la visioconférence, du vote par correspondance et de la consultation écrite. Alors, l'Assemblée générale à huis clos, qui est toujours un concept assez difficile à saisir, finalement, non seulement pour les utilisateurs, mais également parfois pour les professionnels. Eh bien, le législateur prévoit, pendant cette période temporaire, hein, bien sûr, période un peu spécifique liée à les difficultés du contexte sanitaire, que lorsqu'une Assemblée est convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative qui limite ou qui interdit les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, et lorsque ces mesures restrictives en vigueur à la date de la convocation ou à la date de la réunion font effectivement et concrètement obstacle à la présence physique des membres de cette dernière, eh bien l'organe compétent pour convoquer l'Assemblée générale ou toute autre personne qui agirait sur délégation de cet organe, eh bien cet organe compétent va pouvoir décider que l'Assemblée se tiendra à huis clos, c'est-à-dire sans les membres du groupement, sans les personnes qui assistent généralement à ces décisions collectives, c'est-à-dire les commissaires aux comptes, les représentants du personnel ou autres, et en permettant que, même sans présence physique, peut-être même sans présence virtuelle, les décisions soient prises. Alors, c'est une mesure qui, dans un premier temps, avait été ouverte très largement et qui était un peu restreinte. Ouverte très largement dans la première mouture de l'ordonnance de 2020, en disant qu'on pouvait y avoir recours dès lors qu'on ne pouvait pas se réunir ou circuler. La deuxième version, hein, la plus récente, celle applicable en 2021, prévoit quand même, malgré tout, qu'il est nécessaire de justifier que la réunion soit effectivement impossible, en raison, bah, par exemple, d'une mesure de confinement, de mesure qui interdit les déplacements à une certaine distance, de mesure qui interdit les rassemblements dépassant un certain nombre de personnes, ou alors simplement de l'état de santé des différents associés ou de leur situation de fragilité. Alors, en cas de huis clos, les associés, ainsi que les personnes qui normalement ont le droit d'assister au débat, sont avisés, comme le prévoit l'ordonnance, par tout moyen qui permet d'assurer leur information effective, ça peut être un mail, de la date et de l'heure à laquelle l'Assemblée se tiendra, ainsi que des conditions, et ça c'est très important, conditions dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits, c'est-à-dire le droit de pouvoir non seulement participer, le droit de pouvoir voter, le droit de pouvoir poser des questions. Pour le vote ou pour la participation, il est tout à fait possible de prévoir des systèmes d'audio ou de visioconférence, à condition de respecter les règles classiques de la visioconférence, on y reviendra, prévoir également la consultation écrite, prévoir le vote par correspondance, prévoir le vote par procuration et prévoir un système pour pouvoir répondre aux questions écrites. Le huis clos dans les sociétés cotées est organisé de façon un peu plus précise. Les sociétés cotées vont avoir l'obligation, lorsqu'elles vont décider de tenir des assemblées générales en huis clos, eh bien de retransmettre en direct sur leur site internet ces assemblées générales ou de justifier de l'impossibilité technique de la diffusion. Pardon. Si jamais il n'est pas possible de mettre en place pour les sociétés cotées de la visioconférence, il faudra également s'en expliquer. Et pour ce qui est de la réponse aux questions écrites, elles devront figurer sur le site internet dans un endroit suffisamment visible et consacré à cette opération. Alors, pour permettre, malgré tout, de prendre des décisions dans le cadre d'une assemblée à huis clos, ou pour tenir des assemblées, peut-être sans huis clos, mais selon d'autres moyens, eh bien, les textes ont permis, pendant cette période très particulière, un élargissement du champ de la visioconférence, de la consultation écrite, et également du vote par correspondance. Alors, un élargissement de la visioconférence On veut faciliter au maximum cette participation virtuelle à l'Assemblée et on a assoupli considérablement le recours. Alors, lorsque l'on peut recourir à la visioconférence, les règles restent finalement toujours les mêmes sur la nature et la qualité de la visioconférence. Il ne peut y avoir de visioconférence qui se substitue à une présence physique qu'à la condition que l'on mette au point, que l'on mette à la disposition des associés, des procédés techniques qui permettent de diffuser avec une certaine fidélité et en direct aussi bien le son que l'image des personnes de façon ininterrompue. C'est ça la visioconférence et c'est à cette condition-là que la visioconférence remplace la présence physique. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, la possibilité de tenir des assemblées en visioconférence appelle des réponses qui sont très variées, très différentes selon les différentes formes de groupement et les mesures ponctuelles d'adaptation au contexte sanitaire sont venus un peu simplifier les choses. Clairement, on va pouvoir, pendant cette période, jusqu'au 31 juillet, autoriser la jurisprudence dans tous les groupements, y compris les groupements pour lesquels les textes, aucun texte au départ ne prévoyait la possibilité de visioconférence. Alors, à l'heure actuelle, les sociétés civiles, la SNC, les sociétés en commandite simple sont des sociétés où il n'est pas prévu que l'on puisse tenir des AG en visioconférence. Pour ces formes de groupements, eh bien, les mesures temporaires l'autorisent. Pour les groupements dans lesquels on avait déjà prévu, le législateur avait déjà prévu l'utilisation de la visioconférence, eh bien, celle-ci va pouvoir se tenir sans conditions particulières, mais surtout sans les restrictions qui parfois figurent dans les statuts qui réservent la visioconférence à certains ordres du jour. Désormais, pour tous les groupements, pour tous les ordres du jour, y compris l'approbation des comptes, quoi qu'en disent les statuts et quoi qu'en dise la loi, les dispositions temporaires permettent d'utiliser la visioconférence. Cette même souplesse se retrouve pour l'utilisation de la consultation écrite. Alors c'est vrai que la consultation écrite, c'est un mode de décision collective depuis très longtemps en droit des sociétés. Par contre, on le sait, elle n'est pas vue par le législateur d'une façon tout à fait égalitaire en fonction de la nature du groupement. On sait que dans les sociétés civiles, dans les SARL, on peut recourir à la consultation écrite. Alors n'importe quand, généralement dans la société civile, pour toutes les assemblées sauf l'approbation des comptes pour la SARL, qu'on ne peut jamais y recourir normalement dans le cadre de la société anonyme. Eh bien encore une fois, les mesures temporaires sont venues aplanir et simplifier tout ça. C'est-à-dire que tous les groupements vont pouvoir, sur simple décision de l'organe qui peut convoquer l'Assemblée générale, décider qu'une décision va se prendre par le biais de la consultation écrite. Alors, dans les groupements où la loi ne l'autorisait pas, ben, pendant cette période, ça va être autorisé. Pour les groupements où la loi l'autorisait, mais où il pouvait subsister des restrictions statutaires, on va pouvoir considérer ces restrictions statutaires non écrites et malgré tout permettre un échange d'avis, une expression de l'opinion des différents associés par le biais de la consultation écrite. On a assoupli la visioconférence, on a assoupli la consultation écrite, on va également assouplir le vote par correspondance. Encore une fois, le vote par correspondance n'est pas systématiquement, en temps normal, autorisé dans n'importe quel type de groupement et n'est pas autorisé à n'importe quel type de condition. Les mesures transitoires vont venir simplifier les choses, c'est-à-dire que sur décision de l'organe qui est chargé de convoquer l'Assemblée générale, eh bien, on va pouvoir décider que le vote se réalisera par correspondance, et ce mode de prise de décision pourra prévaloir quel que soit le type de décision à prendre, y compris les décisions relatives au compte. Donc, pour toutes les décisions qui relèvent de la compétence des assemblées, on peut tout à fait décider d'abord que le vote se fera par correspondance, quoi qu'en disent la loi et les statuts, et ensuite, dès lors qu'on parle de vote par correspondance, on est également extrêmement tolérant sur la façon dont se réalise cette correspondance. Ça peut être un échange de courrier, effectivement, en prenant bien soin d'envoyer avec un temps suffisant les différentes résolutions qui sont proposées, et puis de recueillir la réponse à ces résolutions. Mais on peut également prévoir un envoi ou une réception du vote par un courrier électronique, un mail, ce qui est encore un mode de simplification extrême, mais qui peut tenir compte de la perturbation des services postaux pour faire en sorte que les prérogatives politiques des associés soient en tout état de cause respectées. Alors on a vu dans une première partie, d'une part, que les règles concernant la tenue des assemblées générales étaient très simplifiées. Le législateur ne s'arrête pas là pour ces mesures qui sont des mesures temporaires, encore une fois, et transitoires, puisque, dans un deuxième temps, il s'intéresse également aux organes collégiaux de direction, d'administration ou de surveillance de la gestion. Alors, les organes auxquels on pense sont essentiellement des organes sociétaires, mais finalement, le texte permet de voir un peu plus large. On envisage les règles de réunion du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire. Finalement, quelle que soit la personne morale ou l'entité dépourvue de morale de droit privé, les décisions collectives des organes qui sont des organes de direction vont pouvoir être prises selon des modes qui sont également assouplis. Donc, ces fameux organes vont avoir la possibilité de délibérer par consultation écrite, par procédé de visioconférence, par correspondance, et ce, peu important ce que dit la loi, ce que disent les statuts ou les règlements. Pendant cette période, tout va être suspendu pour permettre au maximum le fonctionnement de ces organes politiques sans avoir d'obstacle. Alors, si on prend un rapide recul après cette présentation assez sommaire du dispositif, si on prend un rapide recul, on peut tirer un bilan de cette période et de ces mesures transitoires qui durent. Voilà. Peut-être que ces mesures vont permettre à nos pouvoirs publics, aux législateurs, de prendre conscience du fait que les règles de réunion des différents groupements de droit privé, pourvus ou dépourvus de la personnalité morale, sont des règles qui sont pointilleuses, parfois c'est extrêmement justifié, notamment dans le cadre des sociétés anonymes cotées, parfois ça l'est un peu moins dans le cadre des SARL, mais qui frappent surtout par leur grande diversité ou leur grande disparité. Et là, les professionnels qui gravitent autour des sociétés commerciales le savent, les règles de délibération collective sont très différentes entre une société anonyme, une SARL, une SAS, une société en commandite simple ou par action, et il faut sans cesse se mettre au diapason de ces exigences variables du législateur. Là, les mesures transitoires aplanissent et simplifient les choses. Peut-être qu'il serait bon de réfléchir à un modèle unique qui permettrait de naviguer plus aisément dans la jungle des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent les prises de décisions collectives. Peut-être qu'on gagnerait à trouver un modèle commun. Donc, c'est assurément un effet positif de ces mesures de crise que de se dire que on peut peut-être adapter ces mesures, on peut passer outre les difficultés de déplacement et de regroupement et malgré tout faire fonctionner les groupements. Il n'empêche que ces mesures peuvent quand même entraîner un certain scepticisme. Pourquoi scepticisme ? Parce que on peut tout à fait, si on est pessimiste, se dire qu'une porte a été ouverte pour des modalités alternatives de discussion ou de réunion qui, malgré tout, si elles tombaient entre des mains mal intentionnées, pourraient tout à fait paralyser ce qui constitue le cœur de la vie sociétaire, c'est-à-dire la possibilité de discuter, le principe délibératif, de respecter réellement le principe du contradictoire. Et il est vrai qu'entre, encore une fois, des mains mal intentionnées, l'utilisation de tous ces dispositifs pourrait très bien accentuer le caractère parfois factice de la vie collective de certains groupements. Alors les mauvaises langues auront sans doute tendance à dire que finalement une décision collective qui est prise par des moyens de vote par correspondance ou de consultation écrite valent mieux qu'un faux PV d'Assemblée Générale, ils auront tout à fait raison. Il n'empêche qu'il conviendra d'être extrêmement vigilant sur les prochaines options du législateur concernant la vie collective des sociétés. En tout cas, après des mesures collectives qui auront si profondément impacté la vie collective des groupements, il est difficilement imaginable qu'un retour à la normale se fasse comme si de rien n'était, et il est très certainement prévisible qu'une réflexion de fond s'engage sur la tenue des modes de délibération collective des groupements. Je vous remercie de votre attention. Pour aller plus loin, pour répondre à vos questions, je vous recommande la lecture de la foire aux questions sur le site du ministère de l'économie, des finances et de la relance, Direction générale du Trésor, intitulé « Covid-19, tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire » que vous trouverez à l'adresse http://trésor.economie.gouv.fr.